Et l'invité du grand entretien ce matin est historien, professeur au Collège de France. Il publie « Notre histoire intellectuelle et politique 1968-2018 », c'est aux éditions du Seuil. Mes questions pendant une dizaine de minutes, les vôtres au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Pierre Rosanvallon.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. Nous tenions à vous recevoir ce matin. La fin d'une semaine politique a été riche et dense. Vos travaux sur la politique, la démocratie, le pouvoir, les élections font référence. Et votre dernier livre, on va commencer par là, explore au fond ce sentiment qu'on ressent tous, celui d'une crise diffuse, le sentiment que la politique ne marche plus, qu'on est désenchanté, tétanisé, la démocratie n'entraîne plus grand monde, les temps sont au pessimisme pour les uns, à la colère pour les autres. Alors comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui s'est défait sous nos yeux?
Je pense que nous vivons d'abord un moment de désarroi, le sentiment d'être général, d'être dans le brouillard. Et je crois que la raison principale de ce sentiment de désarroi, c'est que nous n'avons pas de repères. Nous flottons. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est justement de reconstruire un peu une histoire longue pour voir le point où nous en sommes aujourd'hui. Et pour le dire très rapidement, on pourra y revenir dans la conversation, mais nous sommes à un moment de transition dans une longue histoire de l'émancipation. L'émancipation, se libérer des dominations, se libérer des contraintes, c'était la grande histoire des révolutions modernes. Et ça a d'abord été conquérir des libertés individuelles, l'état de droit, les droits de l'homme, ça c'était le premier grand moment. Et il y a eu un deuxième grand moment qu'on peut appeler le moment social-démocrate, et en économie, le moment keynésien, qui était celui de l'invention des protections sociales, de régulation collective. On a progressé par ce qu'on faisait corps ensemble et qu'on était dans des corps protecteurs.
Et aujourd'hui, nous
sommes dans une nouvelle économie, dans un nouvel âge de la démocratie aussi. Et nous sommes dans un moment où il faut réinventer à la fois la démocratie, des régulations économiques et puis les formes de solidarité et de protection sociale. Et pour sortir du brouillard, pour sortir du désarroi, nous avons d'abord besoin d'être rassurés, si je puis dire d'une certaine façon.
Bon courage.
Rassurés, parce que quand on s'insère dans un grand récit, quand on comprend l'histoire dans laquelle on n'est pas désemparé de la même façon. Et je crois que c'est sur ces différents terrains, de la refondation de la démocratie, de la redéfinition de l'égalité, eh bien que se joue aujourd'hui la sortie du désenchantement.
Mais Pierre Rosanvallon, l'histoire est belle, elle est glorieuse, elle est heureuse, et elle allait dans un sens. Et ce sens, il était perceptible, on pouvait appeler ça le progrès, l'émancipation, oui, les différents mots que vous avez employés. Mais est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui précisément face à une crise de l'avenir en lui-même? On ne sait pas vers où on va.
Mais si on est dans une crise de l'avenir, c'est parce que les formes précédentes de l'avenir ont épuisé leur histoire. Ça n'est pas parce qu'il n'y a pas de vision de l'avenir possible, c'est que les visions précédentes, elles ont épuisé leur histoire. Partons de la question de la démocratie qui est centrale à bien des égards aujourd'hui. La démocratie, nous avons perfectionné la démocratie électorale d'un certain point de vue et nous continuons à le faire. Regardons tous les débats sur le cumul des mandats, sur la nécessité de faire intervenir moins d'argent dans les élections, sur la nécessité de la proportionnelle. Il y a toujours une histoire qui continue pour améliorer, pourrait-on dire, la démocratie électorale représentative. Mais en même temps, ce programme, il s'est un peu épuisé. Il ne nourrit plus toutes les attentes des citoyens. Il ne répond pas à ce besoin d'être écouté, de prendre la parole, d'avoir des pouvoirs responsables. Donc, nous sommes là en période où il faut réinventer, pourrait-on dire, une démocratie plus réactive qui est de ce que j'appelle des nouvelles fonctionnalités démocratiques.
Pourquoi cette impression, Pierre Rosanvallon, si on regarde la France, qu'au bout de 15-16 mois, un pouvoir est déjà faible, si faible, ballotté, fragilisé, et qu'il ne semble ne plus avoir de ressort. On peut éprouver ça, on peut le lire, on peut se dire que ça traverse le corps social.
Je dirais que les gouvernements sont comme les citoyens. Eux aussi, d'une certaine façon, ils sont désemparés. Et le fait qu'ils soient désemparés, ils se raccrochent à des mots, pourrait-on dire. Ils se raccrochent à des intentions. Il se raccroche à la nécessité de maintenir en place leur pouvoir. Mais eux-mêmes n'ont pas la vision qui leur permettrait que peut faire un gouvernement ? Un gouvernement, il peut faire deux choses. Il peut accélérer le cours des choses, il peut piétiner, ou bien il peut contrarier le cours des choses. Eh bien, on voit que le gouvernement actuel, comme beaucoup de gouvernements dans le monde, ils hésitent entre les trois. Ils n'arrivent pas à être une force d'anticipation. Pour une raison aussi, c'est que ce sont les citoyens eux-mêmes qui sont rétifs, qui sont récalcitrants, parce que eux-mêmes ne voient pas clair. Et quand on ne voit pas clair, eh bien, on se réfugie dans les idées du passé. On se crispe sur la question de l'identité. On ne veut plus, en quelque sorte, réfléchir à un avenir. On préfère se réfugier dans le passé.
La démission de Nicolas Hulot s'est faite sur un constat sombre, Pierre Rosanvallon. La transition écologique qui pourrait, qui sait être un horizon, un moyen de réinventer la politique, l'économie, la société, aller vers quelque chose. Qui, là, pour le coup, est assez clair, même si c'est techniquement difficile à mettre en œuvre. Eh bien, non, a dit Nicolas Hulot, ça n'est pas possible aujourd'hui, considérant ce qu'est la politique, considérant ce qu'est l'économie, on est dans une impasse. Donc là, il y a un avenir, mais il ne mobilise pas.
Eh bien, je crois que dans le constat que faisait Nicolas Hulot à cette antenne, il y avait deux choses. La première chose, c'était justement de constater qu'on ne mobilise pas. Et quelle est la raison de cette non-mobilisation ? C'est la difficulté d'articuler des projets de long terme et puis des intérêts de court terme. La politique, c'est cette bataille entre les projets de long terme et puis les pesanteurs et les contraintes du court terme. Et pour un gouvernement, jouer un rôle dans l'histoire, c'est justement pouvoir faire avancer les citoyens. Qui ne soit pas simplement fondé à défendre des intérêts immédiats, mais à penser pour leurs petits-enfants, à penser le long terme. Et là, une chose qu'a dit Hulot m'a beaucoup frappé, c'est qu'il a insisté sur le fait que c'est la société elle-même qu'il fallait faire avancer. Les gouvernements piétinent, mais aussi parce que les sociétés sont dans le brouillard. Et je pense qu'une des
fonctions... Je suis seul, a-t-il dit
voilà,
à plusieurs reprises.
Une des fonctions de la politique, mais qui est aussi une fonction, pourrait-on dire, du monde intellectuel, une fonction des sciences sociales en général, c'est justement de désépaissir le brouillard. C'est d'aider à construire des récits, de donner de la lisibilité. Car je pense, sur le fond, que si nous avons le sentiment d'être impuissants, et ce sentiment est très puissant et très fort aujourd'hui, c'est parce que nous ne voyons pas clair, parce que nous ne pensons pas les situations qui sont les nôtres et le moment historique qui est le nôtre aujourd'hui.
Comment se fait-il, Pierre Rosanvallon, que la ferveur, la mobilisation, la dynamique, l'envie, voire le romantisme soient aujourd'hui du côté des populismes et non plus de la démocratie ?
On peut dire une chose centrale des populismes en disant d'abord préalablement une chose, c'est que les populismes sont partout dans le monde les formes politiques montantes, partout dans le monde. En Afrique, chez Trump, aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, partout. On peut parler d'une atmosphère de populisme. Et avant même de définir plus précisément les populismes, on peut dire une chose essentielle. C'est que ce qui fonde le populisme, c'est qu'il organise des communautés de répulsion. Il organise des communautés de colère, il organise des communautés d'impatience parce que il y a le sentiment d'une difficulté à agir. Et donc, on pourrait dire que le problème du populisme, ça n'est pas simplement le populisme, c'est parce que il y a un manque d'éclairage de l'avenir. S'il y a le populisme est fort, c'est parce que les communautés, ce qu'on peut dire l'avènement d'une démocratie négative, c'est ce que j'appelle des communautés de répulsion, sont les plus puissantes. Et ça, le vrai travail de la politique aujourd'hui, me semble-t-il, de la politique démocratique, c'est de faire face, d'inverser ces communautés de répulsion.
Mais il y a bien une ferveur pour ces moments-là.
Bien sûr, il y a une ferveur. Il y a une ferveur.
Ça n'est pas que noir et négatif. Non, il y a aussi un désir positif de faire de la politique comme ça.
Voilà, il y a une ferveur qui est une impatience. Il y a une ferveur qui est une attente. Mais il ne suffit pas de faire une communauté d'attente. Il ne suffit pas de faire une communauté d'impatience. Il faut faire aussi une communauté qui regarde vers un avenir désirable et pas simplement vers la dénomination, comme on peut dire comme le font en général les mouvements populistes, en critiquant l'ennemi extérieur, en dénonçant les médias, en érigeant un certain nombre de boucs émissaires en cause de toutes les difficultés.
Vous dites, Pierre-Rosan Vallon, que le populisme auquel vous allez consacrer vos prochains livres, que le populisme déborde les partis qui s'en réclament et qu'on le retrouve un peu partout, à droite, à gauche, dans les mouvements qui ont remplacé ces partis. Est-ce qu'il y a du populisme bon teint, euphémisé, raffiné dans le macronisme, qui est fondé sur un mouvement?
On peut dire que, à sa façon, le macronisme participe aussi de l'atmosphère générale du populisme. Il n'y participe pas en matière de politique sociale ou de politique européenne, par exemple. Mais il y participe en ce sens que lui aussi est fondé sur une politique conçue comme une politique de l'offre, c'est-à-dire la politique, elle descend de haut en bas sur les citoyens, et non plus la politique classique de la demande, où c'était des citoyens qui s'organisaient à partir de leurs intérêts pour mettre en place des machines qu'on appelait des partis. C'est une politique descendante et non plus une politique ascendante. Et si nous voyons partout cette approche de la politique descendante triompher dans le monde, c'est parce qu'on n'a pas assez fait revivre, assez réinventé la politique démocratique qui part du bas.
Avant de passer au standard de France Inter, où les questions sont nombreuses, Pierre-Rosan Vallon, pour vous, un mot pour préciser les choses. Là aussi, je pense que vous y reviendrez dans vos prochains livres. Mais dans quelle tradition, là, au bout de 15 mois, dans quelle tradition politique et idéologique inscrivez-vous Emmanuel Macron?
Je pense qu'Emmanuel Macron se caractérise par le fait qu'il est un tempérament hybride. Il était, au moment de son élection, on pouvait très facilement le qualifier à travers du terme classiquement utilisé, en disant c'est un social-libéral. Après tout, cette étiquette lui collait assez bien. Et puis on voit d'une certaine façon qu'il n'est pas social, ça c'est assez clair dans ces derniers mois, et qu'il n'est pas vraiment libéral non plus, qu'il a des aspects d'autoritarisme, qu'il a des aspects de conservatisme. Et il incarne, à mes yeux, un type de figure politique que je qualifierais d'hybride, qui monte en puissance partout dans le monde, qui est dû justement à ce sentiment aujourd'hui d'être dans un moment de basculement, dans un moment d'attente, et les personnalités politiques qui émergent un peu partout dans le monde, soit ce sont franchement des populistes, soit ce sont des personnalités hybride.
C'est-à-dire entre quoi et quoi? Hybride entre deux.
Hybride entre libéralisme et autoritarisme. Hybride entre des sentiments pro-européens et des tentations protectionnistes. Cette hybridité dépendant aussi des conditions dans lesquelles on se trouve. Regardez par exemple Orban en Hongrie. Orban, c'est à la fois un néolibéral et puis un ultra-conservateur d'extrême droite, ce qui est quand même un mélange un peu improbable. Eh bien, on voit partout ces mélanges improbables à l'œuvre dans le monde.
Allez, on file au standard, il est 8h34, merci de nous appeler sur France Inter et bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Bienvenue,
bonjour,
on vous écoute.
Bonjour Rosan Vallon. Je voulais savoir si, d'après Monsieur Rosan Vallon, on était encore en démocratie, dans la mesure où il y a eu deux référendums, celui sur la Constitution européenne, celui sur Notre-Dame-des-Landes, dans laquelle le gouvernement a pris le contre-pied du vote des Français, d'une part, et d'autre part, moi j'avais appris que en démocratie, un élu était le représentant de tout le peuple et non de ceux qu'il avait élus. Or, aujourd'hui, on est avec un président qui applique son programme, disons, sans tenir compte des gens qui n'ont pas voté pour lui, alors qu'il ne représente que 40% des Français, si on inclut tous les gens qui n'ont pas voté, et notamment, et sans tenir compte même de ceux qui ont voté pour éviter, disons, d'avoir Marine Le Pen, disons, au gouvernement.
Merci Jean-Louis pour cette question très dense, Pierre-Rosan Vallon.
Question à rallonge. La première chose que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, l'élection ne suffit pas à faire la démocratie. Pour deux raisons. Premièrement, l'auditeur vient de le dire, parce que les partis et les candidats aujourd'hui, il y a des scrutins de plus en plus serrés. Et donc, effectivement, si l'on rapporte au nombre des inscrits un élu dans les grandes démocraties modernes, eh bien, il n'a jamais 50% des voix. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que oui, l'élection est nécessaire techniquement. La majorité est une nécessité technique parce qu'il faut bien se décider à ce que quelqu'un occupe un poste. Mais l'élection ne fonde pas assez la démocratie. Et ce dont nous souffrons, justement, c'est d'avoir une démocratie qui mise tout sur l'élection. Une démocratie qui ne mise pas assez sur, justement, des fonctions de contrôle, des fonctions de surveillance, des fonctions...
C'est rendez-vous dans 5 ans pour la prochaine.
De mise en responsabilité, ben c'est déjà ce que disait Rousseau. Le citoyen est un citoyen intermittent. Le citoyen est un citoyen qui n'est le souverain que le jour des élections. Eh bien non, les citoyens voudraient être les souverains de tous les jours. Donc ça, c'est le premier aspect de la question. Le deuxième aspect de la question qui est plus intéressant et plus problématique, c'est l'exemple qui est donné de l'élection du référendum sur le traité européen, sur le traité constitutionnel européen. Effectivement, il y a eu un référendum et puis ensuite, on est passé à autre chose. La difficulté qu'il y avait dans ce référendum, c'est qu'un référendum, il doit prendre des décisions, mais il doit en même temps avertir les citoyens de la politique que l'on va mener si le référendum est positif ou négatif. Et là, c'est un peu la même chose avec le Brexit. On a voté le Brexit et puis les Britanniques sont un petit peu aujourd'hui dans la panade parce que ils étaient pour sortir de l'Europe, je dirais, sur les principes en général. Mais quand ils voient les conséquences pratiques, eh bien, ils sont beaucoup plus hésitants. Donc, la démocratie, c'est aussi voter en tout état de cause. Et peut-être qu'en organisant mal des référendums, on n'aide pas la démocratie.
On est en ligne avec Angèle, depuis les Pyrénées-Atlantiques. Soyez bienvenue sur France Inter.
Oui, merci. Je suis un peu enrhumée, alors je ne sais pas si vous m'entendez bien.
Parfaitement bien.
Bon. La question seule que je vais poser et qui sera étayée par deux petits exemples, si j'ai le temps de les poser, c'est « Le mensonge est-il la nouvelle façon de gouverner ?» Alors, les deux sujets qui me touchent beaucoup en ce moment, c'est « Tous ces corps noyés en Méditerranée, c'est horrible, la Méditerranée, j'adore. Quand on fait de la plongée sous-marine sans bouteille, on peut voir des choses merveilleuses. Je me dis que maintenant, si on plonge, qu'est-ce qu'on voit au fond de la Méditerranée ? Ça me rend malade. Voilà. Et aussi,
Je vous laisse retrouver le deuxième exemple, Angèle. On va déjà répondre à la question massive que vous posez sur le mensonge et à l'autre question sur les migrants. Pierre Rosanvallon vous répond.
Je partage votre indignation concernant la deuxième question. Et je n'ai pas d'autre réponse à faire que de dire que je me joins à cette indignation de façon très forte et très décidée. Sur le premier point, le mensonge en politique, bien sûr, la politique, si elle est fondée sur la recherche du soutien, elle met en place des mécanismes de séduction, elle va mettre en place des mécanismes qui vont aller contre, justement, ce rapport à la vérité. Mais qui est le gardien du rapport à la vérité? Eh bien, ce sont les citoyens. Ce sont les citoyens, leurs associations et aussi, il faut le dire, les médias. Je crois qu'une façon trop générale, aujourd'hui, quand certains ont osé parler de haine des médias, il n'y a pas les médias en général. Les médias, ce sont des journaux en particulier, ce sont des radios, ce sont des télévisions. Ils ne sont pas tous les mêmes. Il y en a qui font leur travail démocratique et d'autres qui ne le font pas. C'est quelque chose de très important à souligner. Mais en tant que citoyen, eh bien c'est à nous d'être les gardiens, justement, du parler vrai.
Jean-Claude est en ligne depuis Marseille. Soyez le bienvenu sur Inter.
Oui, bonjour monsieur Rosanvallon. Voilà, je souhaite que vous abordiez la question des contre-pouvoirs dans une démocratie, et en particulier la place et le rôle du mouvement syndical aujourd'hui. Et une petite question incidente qui vous surprendra pas. J'étais membre du bureau national de la CFDT où vous interveniez assez souvent et pour moi très positivement. Aujourd'hui, je suis un peu catastrophé de voir la CFDT ne plus jouer son rôle de contre-pouvoir. Merci beaucoup.
Merci à vous, Jean-Claude, pour cette question. Pierre Rosanvallon.
Les contre-pouvoirs font la démocratie. Pourquoi les contre-pouvoirs font la démocratie? Ben parce que le pouvoir est toujours tenté de l'abus de pouvoir. Le pouvoir est toujours tenté de se reposer sur sa légitimité électorale en disant « le peuple est derrière moi » pour penser qu'il exprime toujours le peuple. Non. Les contre-pouvoirs font partie de la démocratie, parce que si on veut une démocratie permanente, eh bien, il faut toujours un combat pour la représentation. Et une des choses qui caractérise les mouvements populistes partout dans le monde et les régimes populistes, c'est justement leur haine des contre-pouvoirs, leur haine des cours constitutionnelles, leur haine des juges, leur haine aussi des médias. Un des points communs qu'il y a à tous les régimes populistes dans le monde, que ce soit l'Amérique de Trump, que ce soit le Venezuela de Chavez, que ce soit la Hongrie de Orban ou la Pologne des frères Kaczynski, c'est la haine des cours constitutionnels, la haine des médias et la haine des contre-pouvoirs. Donc il est très important d'insister sur le fait que les contre-pouvoirs, ils sont un instrument nécessaire de la démocratie et qu'il ne suffit pas de l'onction électorale pour dire « je suis définitivement légitime et je peux gouverner comme je veux ».
Depuis Cachan, Corinne appelle France Inter. Soyez la bienvenue, bonjour.
Oui, bonjour. Voilà, j'aurais voulu savoir si M. Rosanvallon pourrait nous expliquer quelle est la différence entre démagogie et populisme.
Très bonne question. Damien demande aussi sur l'application France Inter de redonner la définition du mot populisme qu'on emploie souvent entre guillemets ou en disant faute de mieux. Je vous laisse le faire, Pierre Rosanvallon.
Eh bien, effectivement, la démagogie, je dirais, elle est de tous les temps en politique. Quand on relit les grands classiques de la politique dans l'Antiquité, qu'il s'agisse de Cicéron ou quand on relit Platon ou Aristote, la démagogie est une tentation et permanente des pouvoirs. Donc la démagogie, elle est de toujours. Le populisme, en revanche, le populisme, on peut le définir de façon très rigoureuse. Le populisme, il se définit d'abord par une certaine vision du peuple. Contre la vision d'une société divisée en classes, en intérêts conflictuels, le populisme, il simplifie la vision du social en disant il y a un peuple qui fait bloc contre quelques petites élites et dans certains cas, pour des populistes d'extrême droite, contre les étrangers. Donc, il y a une vision du peuple. Il y a une vision de la démocratie aussi, qui est une vision de la démocratie qui se fonde quand même en grande partie sur l'autorité d'un leader, une politique qui va de haut en bas. Et cela, c'est une permanence, par exemple, des populismes latino-américains. Alors, et puis enfin, le populisme, c'est une vision de la démocratie majoritaire électorale qui refuse les contre-pouvoirs. Donc ça, ce sont trois caractéristiques essentielles.
Populisme ou fascisme en Italie, vous demande Christophe sur l'application de France Inter.
Il ne faut pas... La grande histoire du XXe siècle, c'était justement que la démocratie a été menacée, a succombé dans un certain nombre de cas sous les totalitarismes qui ont été le fascisme, le nazisme ou des formes de stalinisme. Eh bien, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, parce que le fascisme, c'était un enrégimentement de la société. Et le fascisme, c'était en quelque sorte un dépassement à partir du moment où le leader était là, il n'y avait plus de vie démocratique, il n'y avait plus d'élections. Les populismes continuent à entretenir au moins la nécessité, théoriquement, la nécessité de faire vivre une démocratie électorale. C'est une grande différence.
Virginie, bonjour, vous nous appelez de Lyon, vous avez la parole, soyez la bienvenue.
Oui, bonjour Monsieur Demorand et Monsieur Rosanvallon. Alors en fait, moi je voulais poser une question autour de la notion de démocrature que j'ai entendue récemment, qui est une contraction en fait de démocratie et dictature. Et en fait, c'est un système politique qui existe notamment au niveau des dirigeants européens. On peut parler d'Erdogan en Turquie ou Poutine en Russie. Et en fait, je voulais savoir demander à Monsieur Rosanvallon s'il pensait que Monsieur Macron, sur le plan national, en fait, au niveau de la France, exercer une forme de démocrature, parce que, à mon sens, nous avons élu au suffrage universel un homme qui se comporte comme un monarque absolu, voire de droit divin. Est-ce que c'est à cause de son prénom Emmanuel, fils de Dieu, hein, avec une volonté de concentration de pouvoir, de contrôle absolu, d'exercice du pouvoir, avec le gouvernement qui ressemblera un peu à sa cour, et puis avec son fou du roi, Alexandre Benalla, qui est légèrement perturbé et violent.
Merci Virginie pour cette chronique de la cour. Le terme... Je laisse Pierre Rosanvallon avec votre question.
Le terme de démocrature, oui, on commence à l'utiliser, et il dit bien ce qu'il veut dire, et effectivement, l'appliquer aux deux cas que vous avez mentionnés, de la Turquie d'Erdogan et de la Russie de Poutine, est tout à fait pertinent. Je ne pense pas que l'on puisse tout de même assimiler Emmanuel Macron Macron, ça me paraît tout de même déplacé d'assimiler Emmanuel Macron à Poutine ou à Erdogan. Qu'est-ce qui caractérise Poutine et Erdogan ? C'est justement le raisonnement qui était celui de Napoléon III. Il disait, moi je suis le vrai démocrate puisque j'ai gagné les élections. Et qu'est-ce que du contre-pouvoir ? Qu'est-ce que les médias ? Ce sont des intérêts particuliers qui essaient de s'immiscer dans le débat public et d'introduire en quelque sorte un pouvoir des intérêts particuliers dans la politique. Donc, comme démocrate, je suis fondé à brider la presse. Je suis fondé à la limiter. Et que disait Napoléon III aussi ? Eh bien, je suis fondé à limiter les partis politiques. Parce que les partis politiques, moi je représente le peuple russe, ou moi je représente le peuple turc, et les autres partis ne représentent que des minorités économiques, des intérêts particuliers, voire le pire, des intérêts étrangers. Donc, la démocrature naît quand on pense que le pouvoir majoritaire donne tous les droits. Et à ce moment-là, la démocratie reste formellement, si on n'interdit pas les élections, mais bien, dans bien des cas, même on les manipule, hein, ce qui est le cas en Russie. Et elle reste mais comme un corps mort, presque, parce que justement, une certaine vision de la souveraineté du peuple conduit à éradiquer tous les contre-pouvoirs.
Merci beaucoup Pierre-Rosan Vallon. Notre histoire intellectuelle et politique, 1968-2018, aux éditions du Seuil. Fait donc très attention aux mots qu'on emploie. Merci de nous l'avoir rappelé dans le dialogue avec les auditeurs d'Inter.